Nous demain. Une émission de Jean-Pierre Estrampes, architecture, urbanisme, cadre de vie. À tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Notre-Dame de Paris. La semaine dernière, je vous avais parlé de Le Corbusier. C'est un sujet important, récurrent, sur une émission sur l'architecture, et nous y reviendrons dans une prochaine émission. Alors là, nous changeons de siècle et nous parlons tout de même d'actualité parce que, comme moi, vous avez vu notre président qui montait au sens propre dans les tours de Notre-Dame. Et dans les discours du président, on a eu très souvent une autosatisfaction sur la rénovation, restauration à la suite de l'incendie de ce bâtiment emblématique de la capitale de la France et on peut dire aussi de l'architecture médiévale. Alors, c'est ce sujet d'actualité qui est dû à un malheur, on peut dire, qui était l'incendie, et l'objet de d'émissions assez régulières où on parle de patrimoine, on parle d'architecture, on parle d'art et on parle du style gothique. Et il y en avait donc eu, vous avez dû en voir régulièrement sur à peu près toutes les chaînes. Et ce sont des émissions qui sont bien faites avec des historiens, des spécialistes de l'art médiéval et aussi des interviews sur les architectes, notamment les architectes des bâtiments de France qui ont rénové la cathédrale après l'incendie. En fait, il y a à la fois une actualité et à la fois des émissions culturelles, ce qui est une bonne chose. Alors, je ne vais pas rajouter à ce qui est déjà dit, mais je vais, et c'est le but de cette émission, d'avoir un regard un peu impertinent, même très impertinent, si c'est possible, et qui n'est pas dans un accord total avec ce qui a été dit à la télévision, justement, dans les médias, au sujet de l'art gothique, puisqu'il s'agit de cela. Donc la manière dont c'est présenté, c'est que il y a le Moyen-Âge avec l'arc de plein cintre. L'arc de plein cintre, donc ça veut dire c'est une voûte qui est lourde en demi-cercle, qui est posée sur des murs épais et qui est dans le récit qui est donné quelque chose d'assez primitif, lourd, pas très bien construit techniquement, ou on ne dit pas que c'est mal construit, mais on dit quand même que c'est limité. Donc c'est limité parce qu'on n'a que des petites fenêtres dues à cette technique qui est dite, le mot peut-être, si le mot primitif est donné, mais ce n'est pas le primitif au sens plus ancien, c'est primitif au sens réel, ça veut dire qui est moins compétent, moins technique, moins élaboré, et à l'époque gothique, donc, est présenté comme soudain l'architecte de l'abbé Sugère, c'est pas l'abbé lui-même, mais c'est l'architecte, qui a une illumination et tout d'un coup voit une cathédrale qui va être très haute, très lumineuse, et donc il va pour cela trouver et c'est montrer avec force détail et souvent des graphiques, des schémas, des dessins pertinents ou des maquettes qui montrent un principe qui est considéré comme novateur, ingénieux et qui va être l'arc ogival. Bon, alors je ne vais pas répéter ce que tout le monde sait et apprend. Vous avez l'arc ogival, alors c'est la métaphore des mains jointes pointées vers le ciel dans la prière. Et puis, on emploie les métaphores habituelles, c'est la lumière divine que l'on veut atteindre, etc. Bon, tout cela me semble assez empreint de romantisme, de romanesque. On revient à Victor Hugo, qui, effectivement, a dans Notre-Dame de Paris des grandes envolées lyriques. Et les historiens, et aussi ces architectes ou spécialistes, reprennent ce schéma. Le schéma, donc, il est clair, on va vers le progrès. Avant, c'était l'époque, on peut dire, sombre, sur un plan à la fois réel et métaphorique. Et puis, avec le gothique, on va vers la lumière. Alors, on ne parle pas encore du siècle des Lumières, mais enfin, on y est presque. C'est-à-dire que l'architecture serait l'ouverture de l'esprit, du moment qu'on fait des façades non épaisses, plus légères et plus lumineuses, en même temps, l'intelligence humaine et l'esprit devient plus clair. Alors, je dis ça, évidemment, sur un ton assez ironique, parce que les choses ne sont pas aussi simples. Alors, c'est un rapport qui est moderne à la technique, comme si la finalité d'un bâtiment, c'était de faire des records. Alors, quand il s'agit d'un objet technique, je sais pas, par exemple, un avion, une voiture, qu'est-ce qu'on demande à un avion ? C'est être le plus sûr possible, le plus léger possible, qui consomme le moins, qui soit le moins bruyant. Enfin, il y a des données techniques et la forme, effectivement, est faite pour être aérodynamique et la plus performante, puisqu'il s'agit d'aller vers une performance. De la même manière, quand on fait un pont, on veut franchir un espace, par exemple entre deux rives, qui va être le plus sûr, le plus large, ayant le moins de piles, c'est-à-dire qui serait susceptible d'être le moins renversé par des crues. Donc on est toujours dans la performance. Quand il s'agit d'un bâtiment dans lequel on vit, ce qui n'est pas le cas d'un pont, à part évidemment le pont Tévéquio ou les ponts médiévaux où on avait des habitations dessus, mais qui n'a qu'une fonction de franchissement, on est dans autre chose, puisqu'il s'agit, et surtout dans le cadre de la cathédrale, d'un bâtiment qui a comme finalité d'être symbolique, d'être le signe, à la fois dans l'espace public, de sa fonction, qui est une fonction donc spirituelle, religieuse, et qui n'est pas, évidemment, fonctionnelle. Donc on n'est pas dans la machine, on est dans du symbolique. Et la question de faire un bâtiment plus lumineux, quelle est la finalité ? C'est si on prend on prend à l'extrême le principe de la luminosité, bah, c'est-à-dire que si on est sous une bâche et si on est juste protégé de la pluie, bah, on est en pleine lumière. Donc la finalité d'un bâtiment n'est pas forcément d'être le plus lumineux possible, mais au contraire, de protéger de la lumière. Ça peut être le cas dans pas mal de, on peut dire, de contrées ou de cas de figure. Mais il y a aussi comme finalité de protéger. Alors de protéger des intempéries. Et donc un bâtiment, par exemple, il y a aussi du froid et de la chaleur. Et on sait qu'un bâtiment qui va être très épais va être un bâtiment qui va conserver la température. Et notamment quand on rentre dans une église lourde, épaisse et romane, et il fait frais et on peut un jour de canicule sans avoir besoin de traitements artificiels que vont mettre les machines qui font du froid, les climatiseurs, on a de la fraîcheur à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, encore une fois, la finalité, c'est pas d'être plus haut, parce que être plus haut, pourquoi ? Alors, si on fait des tours, oui, la tour qui a, par exemple, une tour de guet doit être haute, mais on voit pas très bien pourquoi le volume de la nef centrale a comme finalité d'être plus haut. Encore une fois aussi, pourquoi il serait aussi plus lumineux ? Alors, entre un bâtiment qui est totalement sombre et où on n'y voit rien, où il faut un éclairage artificiel qui soit fait de bougies ou qui soit fait aujourd'hui par de l'électricité, est une chose, mais on peut avoir aussi un dosage. Donc, cette présentation de l'architecture gothique me paraît fallacieuse, et puisque il ne s'agit pas comme de passer du roman au gothique d'un progrès, mais qu'il s'agit de quelque chose de totalement différent, il s'agit de quelque chose qui est totalement autre, c'est comme finalité et comme symbolique. Alors, on va développer dans la deuxième partie la partie la plus symbolique, mais je voudrais simplement dire que entre l'église ou la chapelle romane ou la basilique romane, on est dans un rapport qui va être dans une tradition qui va être historiquement celle de la romanité, des pays latins, et que dans le cas de la cathédrale gothique, qui s'appelle, c'était pas le nom à l'époque, mais c'est le nom qui lui avait été donné, mais on ne s'est pas trompé en lui donnant ce nom, c'est les Goths, c'est-à-dire ce sont des peuples qui viennent du nord. Donc on est sur un affrontement, une opposition entre les cultures latines du sud et les cultures du nord, et nous allons, après la pause musicale, développer ce point. comme je vous disais à l'instant, il s'agit de phénomènes culturels entre le Nord et le Sud. Mais la question de, il n'y a pas une question de progrès, il y a une question de culture, et la culture n'est pas le progrès de la science. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc on fait, je pense, une confusion à ce niveau, et on parle beaucoup dans ces émissions dont je parlais à l'instant, de progrès. D'un côté, il y aurait les architectes primitifs, comme je vous disais, et puis l'architecte inspiré qui trouve des techniques extraordinaires. Donc, je voudrais aussi, en tant que professionnel, relativiser cette notion. Et effectivement, ça plaît aux foules sentimentales de montrer les pinacles, la voûte d'ogive, le report des forces. Donc il y a des trucs très savants qui sont démontrés dans ces émissions, mais ça ne me semble pas l'essentiel. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fin de compte, en architecture, on n'invente rien. Comme un art, on n'invente rien. On ne fait que s'adapter, reproduire les choses au fur et à mesure, et que cette espèce de prouesse de l'esprit humain qui serait de reporter les forces sur l'extérieur, ben vous savez, vous avez qu'à regarder les tentes primitives, la tente les grandes tentes des Touaregs et probablement celles qui sont perdues de d'autres époques et d'autres peuples. Ben vous avez la toile tendue en forme de chapeau à deux pans dans lequel justement les pluies peuvent couler, et vous avez des haubans à l'extérieur et des tensions avec deux séries de piquets et les tentes aubanées. Ben, une tente aubanée, vous avez le schéma de l'église gothique. Donc, je ne vais pas ramener l'église gothique uniquement à ses tentes, mais sur un plan de la pensée technique, on l'avait trouvé déjà bien avant, et on ne fait que répéter, simplement, là où effectivement rentre le génie humain, c'est l'organisation. Et là, nous avons effectivement un bâtiment extrêmement complexe à construire. Et là, j'ouvre une petite parenthèse sur le temps de construction. On a trouvé absolument extraordinaire que le président Macron ait poussé les troupes à faire un chantier. Alors, lui-même parle de reconstruction de Notre-Dame. Je suis désolé, il ne s'agit pas de reconstruction. Il s'agit uniquement d'une restauration due à un accident. C'est-à-dire que la charpente la charpente a brûlé et la flèche, en tombant, a fait un trou dans la voûte. Mais la cathédrale ne s'est pas écroulée. Il y a eu une partie de la voûte qui s'est effondrée. Et la construction de la cathédrale, de la voûte et de l'essentiel de la structure, ben, ça n'a pas mis un siècle comme on entend dire. Alors s'il y a eu un siècle entre le début et la fin des travaux de peinture, de sculpture ou des aménagements intérieurs, ça dépendait. De l'argent, et ça dépendait des donations. Mais le chantier, je peux être absolument sûr de sa durée, ne peut pas être étalé sur un temps très long. C'est-à-dire que la voûte doit être montée très rapidement. Donc le temps de la voûte, le temps de la montée à l'origine, c'est-à-dire au XIIe siècle de la cathédrale, ben, 5 ans, ça, je pense que c'était déjà très long, et ça a été fait en moins de temps. Donc, on peut s'interroger sur la notion du progrès et sur le cocorico pour cet immense succès avec la Cour des comptes qui a félicité parce que c'était passé dans les délais. Ça a quand même coûté 850 millions d'euros. Je pense que il s'agissait effectivement de travaux de nettoyage et avec les cendres de la charpente qui a été tombée à l'intérieur, mais et puis il avait fallu reconstruire un toit. Alors on a fait un toit à la manière de la charpente ancienne avec les outils anciens. Tout ça est quand même, pour une partie qui ne se voit pas, me semble un peu ridicule, et de l'argent jeté par les fenêtres. Et au final, la vraie épreuve, on peut dire architecturale, était de reprendre les pierres qui étaient tombées et de les remonter. Mais ça, c'est un travail tout à fait simple, surtout qu'aujourd'hui, on a des moyens absolument de levage qui n'étaient pas avant, des échafaudages légers et des possibilités qui font que ça aurait pu être fait à un délai bien plus court. Bien, alors, je passe sur cet élément, et je veux en venir à une notion plus importante. Quand je vous parlais de culture et de position des cultures entre le Nord et le Sud, mais ça va plus loin, parce qu'il s'agit de cultures différentes. Ce n'est pas uniquement une question, on peut dire, territoriale, géographique, entre le Nord et le Sud, comme une équipe de foot de Madrid ou d'Amsterdam. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un rapport à, on peut dire, à l'humanité, totalement différent, parce que les cultures, on peut dire, méditerranéennes, qui remontent à l'Antiquité, qui va être la Mésopotamie, l'Égypte, mais surtout la Grèce et Rome, et on peut dire que l'Europe va être totalement romaine, avec ce fond d'une culture qui est basé sur les valeurs de la Grèce, c'est-à-dire la valeur de l'humanité, et pour reprendre la philosophie platonicienne, c'est le beau, le bon et le vrai qui sont ensemble, et on peut dire que les bâtiments ont les proportions d'une géométrie simple et les proportions de la beauté du corps humain. Donc il ne s'agit pas de faire de la performance, mais il s'agit de faire de la beauté et de la proportion. Si vous regardez le plan de l'église romane, on a un bel exemple avec Saint-Sernin à Toulouse. Bah, c'est une croix, donc c'est le corps du Christ qui est sur une croix, le symbolique fondamental de la chrétienté, même si on ne le voit pas vraiment, on le sait, et on le voit à l'intérieur aussi. Donc cette forme de croix et la proportion de la façade, par exemple, d'entrée, et le nombre d'or, et on a des rapports qui sont des rapports harmonieux et qui ne cherchent pas l'exploit technique dont je vous parlais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de faire le plus haut possible, mais dans le cas de Saint-Sernin, il fallait faire le plus grand possible, et donc on a fait 5 travées, et avec un système assez astucieux qui fait que les travées latérales permettent d'éclairer, et on a une église qui est lumineuse. Et donc, c'est pas la peine non plus d'ouvrir plus, parce que il y a une sorte de sacré que quand on rentre à l'intérieur, comme il était dans les temples anciens, où on l'a encore plus. On cherchait à avoir les mystères, c'est-à-dire qu'il y avait des parties qui étaient fermées à la vue du public. Il n'y avait que les prêtres qui pouvaient faire les sacrifices. Et le public était tenu, c'était le naos, le pronaos. Une thématique qui est reprise aussi dans le catholicisme romain, où on avait le jubé central, et la messe, en fait, n'était vue que par les officiants, effectivement, mais aussi par le clergé, avec un système hiérarchique. On pourrait dire c'était un système, l'architecture était une procession initiatique, Et il y avait donc les chapelles avec les reliques des saints tout autour. Enfin, c'était, on peut dire, un espace fractionné avec une grande complexité et avec aussi ce que je vous disais, c'était le même rapport initiatique que l'on trouvait dans les temples de l'Antiquité. On est effectivement tout à fait dans un autre domaine avec les cultures du Nord. On est dans un rapport. Alors, c'est pas que les humains sont que les humains ne sont pas pris en compte, mais c'est la nature qui est au centre. Et je vous dirais que je pense que ce basculement est un basculement qui arrive dans la fin aussi de notre 20e siècle et 21e siècle. C'est la nature qui devient le centre et qui prend la place de l'humain. Vous savez de quoi je parle ? Je parle de l'écologie. Alors, j'en parle pas d'une manière en disant c'est le bien et c'est le mal. Non, c'est simplement deux modes de lecture du monde, et nous sommes effectivement aujourd'hui dans cette admiration du gothique. Je crois que nous sommes influencés par ce rapport au monde dans lequel la nature est au centre, et effectivement ce gothique qui avait été considéré comme mal ordonnancé, une architecture venue de peuples justement, eux, primitifs par rapport au classicisme qui a eu, on peut dire, été le centre de la culture française et du siècle des Lumières. Eh bien, ce classicisme était bien supérieur dans l'esprit des Français à l'art gothique, et on assiste aujourd'hui, et c'était le sens de cette émission, à un mouvement inverse, et donc je voulais rétablir, on peut dire, non pas la vérité, mais en tout cas un équilibre entre deux modes de pensée, et qu'il n'y avait en fait la vérité ni dans un cas ni dans l'autre. Alors, je vais faire une conclusion, on peut dire occitane, d'esprit Occitanie, et entre cette opposition de cette architecture, et ça, j'ai peut-être oublié de le dire, mais c'était peut-être dans mes propos liminaires, l'architecture romane est une architecture solide, comme l'architecture classique, comme l'architecture romaine, et de grands bâtiments nous sont parvenus à travers les millénaires jusqu'à nos jours. Les bâtiments gothiques sont des bâtiments fragiles, c'est des chantiers permanents, et c'est une architecture de l'exploit, mais qui n'avait pas comme fonction de la durabilité. Et là, je vous renvoie à l'architecture de bois aujourd'hui, qui est proposée par les écologistes, où on cherche une performance, mais on ne cherche pas la durabilité. Donc, on est dans notre culture, on peut dire latine, de notre sud, beaucoup plus imprégnée par nos villages, par la brique, par la pierre, par la solidité des murs, par cette culture de la permanence, par rapport à cette culture, je peux dire, de l'exploit. Et donc, nous avons les deux bâtiments uniques dans, on peut dire, dans l'histoire de la chrétienté et l'histoire de l'architecture, qui sont Sainte-Cécile d'Albi et, bien sûr, les Jacobins de Toulouse. Et là, nous avons des bâtiments qui reprennent, parce que c'est l'esprit du temps, l'esprit gothique, avec des très grands vitraux, mais on n'a pas besoin de faire ces fragiles arcs-boutants, puisqu'on se sert des contreforts anciens, et on arrive, alors dans le cas de Jacobin, d'une manière tout à fait étonnante, mais j'espère que tous les auditeurs de Radio Esprit d'Occitanie connaissent les Jacobins, et s'ils ne connaissent pas, courez-y si vous le pouvez, avec des piliers, une série de piliers au centre, qui qui permettent justement d'échapper, puisqu'ils sont protégés par la voûte et par l'intérieur, cette fragilité de cette cathédrale qui effectivement aurait pu s'effondrer, Notre-Dame de Paris, lors de l'incendie. Mais rassurez-vous, les cathédrales, les basiliques romanes et les cathédrales exceptionnelles que sont Albi et Jacobin ont beaucoup moins de possibilités de risque que l'architecture gothique. C'était Où vivrons-nous demain ? Je remercie Sacha qui est à la technique et je vous souhaite une bonne semaine.